Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la sixième dans une série sur l'Église et s'intitule « Sa loi ». Dans nos études précédentes sur l'Église, nous avons appris que le royaume de Christ et l'Église du Christ sont inséparables. Les termes sont même, dans plusieurs passages bibliques, interchangeables. Ceux qui sont citoyens du royaume des cieux sont ceux qui ont été ajoutés à l'Église du Seigneur. Si donc l'Église est aussi un royaume, nous devons nous attendre à trouver que ce royaume a un roi et une loi. Le souverain de ce royaume est effectivement Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul proclame la position du Christ dans les termes les plus clairs. Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens 1, versets 20 à 22. Et ce chef suprême de l'Église porte bien le titre de roi. En fait, selon Apocalypse 19, verset 16, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous. Mais nous qui vivons au XXIe siècle ne devons pas nous tromper sur le sens de ce titre. Dans la plupart des pays qui ont encore des rois ou des reines, le monarque n'a que des pouvoirs très limités. Et son rôle est souvent purement cérémoniel. Même s'il y a un roi, le gouvernement peut être démocratique, c'est-à-dire le pouvoir appartient plus ou moins au peuple, qui fait ses propres lois par le canal des personnes choisies au cours des élections. Mais Jésus ne porte pas le titre de roi de manière honorifique, et son royaume n'est pas une démocratie. Avant de monter au ciel, il dit à ses apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, verset 18. Ce n'est pas un nom seulement qu'il a reçu, mais aussi toute l'autorité suggérée par ce nom. Ce que ce roi a dit aux hommes doit être suivi, respecté, obéi. En Matthieu 17, Jésus est monté avec Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne où il a été transfiguré à leurs yeux. C'est-à-dire, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, versets 2 à 5. Ce n'était plus la loi de Moïse qui serait en vigueur. Ce ne seraient plus les prophètes de l'Ancien Testament qui feraient autorité pour le peuple de Dieu. C'est Jésus qu'il faut écouter aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux commence par la même vérité importante. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1. Et puisque Jésus a reçu toute autorité en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, nous devons comprendre que sa parole est la loi à laquelle nous devons obéir. Jésus lui-même dit en Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Mais comment Jésus fait-il connaître sa volonté aujourd'hui pour l'Église dont il est le chef? La Bible nous dit qu'il est remonté au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Comment savoir ce que notre roi ordonne? Jésus a révélé sa volonté en tant que roi à travers les apôtres qu'il a formés et qui étaient, selon sa promesse, inspirés du Saint-Esprit. Avant de les laisser, il les a rassurés qu'ils auraient l'assistance du Saint-Esprit. En lisant ces promesses, il est important de savoir que Jésus ne parlait pas à la multitude de ses disciples en général, mais aux 12 apôtres qu'il avait choisis. Oui, le Saint-Esprit serait donné à tout chrétien, mais tout chrétien ne serait pas inspiré de la manière que Jésus décrit dans les passages suivants. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, verset 26 et 27. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. En Matthieu 10, versets 18 à 20, Jésus parle à une autre occasion de cette même inspiration du Saint-Esprit dont ses apôtres bénéficieraient. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce que nous venons de voir explique pourquoi les apôtres insistaient tellement sur le fait que leurs écrits n'étaient pas d'eux-mêmes. Ils n'étaient que des porte-paroles du grand roi, Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. » Qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Alors, puisqu'il ne s'agit pas de la parole de Paul ou d'un autre homme, l'obéissance à cette parole n'est pas facultative. Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8, « Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Presque tous ceux qui se disent chrétiens, quelle que soit leur dénomination, appellent la Bible la parole de Dieu. La majorité de croyants prétendent accepter son autorité. Mais malheureusement, ils étouffent en quelque sorte la voix de la Bible pour qu'elle ne soit pas entendue. Certains l'étouffent par la tradition. Le catéchisme catholique enseigne que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, c'est-à-dire l'écriture et les traditions transmises oralement de génération en génération, doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Fin de citation. La tradition est donc élevée à un même pied d'égalité avec les écritures, malgré le reproche de Jésus en Marc 7, verset 9, où il dit « Vous anéantissez le commandement de Dieu pour garder votre tradition ». Non seulement l'ajout de la tradition humaine fait que la voix de la Bible ne s'entende plus clairement, on l'étouffe davantage par les décisions des conciles formés d'hommes non inspirés. En lisant le Nouveau Testament, on constate facilement que les différents livres qui le composent sont adressés à de simples chrétiens, comme vous et moi. Mais les dirigeants religieux n'encouragent pas les chrétiens ordinaires, ou laïcs comme on les appelle, à étudier la Bible. Ce livre dans lequel le roi parle à tous ses sujets. Pour citer encore le catéchisme de l'Église catholique, la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise oralement, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. En d'autres termes, ce sont seulement l'ensemble des évêques qui reconnaissent l'autorité du pape qui ont le droit d'interpréter la Bible. Les décisions de ces évêques, accumulées au cours des siècles, s'ajoutent donc à ce qu'ont dit les apôtres, les vrais porte-parole de Jésus. Mais l'Église catholique n'est pas la seule à élever des traditions et des décisions humaines au-dessus de la parole de Dieu. Nombreuses sont celles qui font la même chose. Mais il y a une autre manière par laquelle des hommes étouffent la voix de la Bible, ce livre qui contient la volonté du chef suprême de l'Église. Il y a des personnes aujourd'hui qui prétendent que Dieu leur parle, qu'ils reçoivent régulièrement des messages directement de la part du Seigneur. Eux aussi se permettent de mettre de côté des enseignements de la Bible pour faire place à leurs nouvelles révélations. Mais une personne réellement conduite par l'Esprit de Dieu ne pourrait jamais contredire ou minimiser l'importance de ce qui est écrit dans la Bible. Ceux qui le font ne sont pas de vrais prophètes ou des personnes spirituelles, comme ils essayent de nous faire croire. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 14, verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. L'apôtre Jean fait le contraste entre de telles personnes et les apôtres de Jésus. Il dit en 1 Jean, chapitre 4, versets 5 et 6, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent à la manière du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. En réalité, le Seigneur Jésus a pleinement révélé sa loi aux hommes du temps de ses apôtres qu'il avait choisis. Dans sa providence, il l'a fait conserver par écrit dans la Bible. Après la mort des apôtres, les chrétiens pourraient se rappeler leurs enseignements inspirés, donc les commandements du Seigneur et roi Jésus-Christ, parce qu'ils ont écrit ces enseignements, et nous les avons dans le Nouveau Testament. Non seulement ce travail a été achevé du vivant des apôtres, mais il n'y aurait pas besoin de révéler une deuxième fois la volonté du Seigneur pour nous. Jude 3 dit en effet que la foi chrétienne a été transmise au saints une fois pour toutes. Et l'apôtre Jean nous met en garde. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. 2 Jean verset 9. La Bible est complète et nul n'a le droit d'ajouter à ses enseignements. L'autorité dans l'Église de Jésus-Christ n'appartient pas aux hommes mortels. Elle ne réside ni dans la tradition humaine, ni dans un groupe de dirigeants, ni dans un soi-disant prophète moderne. Jésus dit que toute autorité lui a été donnée. Dire qu'il est le chef de l'Église n'est pas simplement lui donner un titre honorifique. Il règne réellement sur son royaume spirituel, l'Église, et il a fait connaître ses lois dans le Nouveau Testament.
Majesté.